soir, Kinshasa, la capitale de la RDC, accueille du 12 au 14 octobre 2012 le 14e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF se réuniront autour du thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Quels sont les différents enjeux que représente ce sommet pour la RDC? Pour en parler, nous recevons le professeur Banya Kouluapé, professeur des relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il est coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Professeur Banyakou, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Ève Bazaïba, députée nationale de l'opposition et présidente de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. Honorable Bazaïba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Bouendoua Elouga Essi, politologue et professeur à l'ISC Ouvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci à vous, le quatrième invité, chers auditeurs et internautes, Jacques Assungé de Bukavu au Sud Kivu. Parmi les enjeux, nous pouvons noter la redynamisation de la langue française en RDC et le mixage culturel entre différents pays membres de l'OIF. Malunga Kubali de Bandundouville, pour la RDC, je vois qu'après ce sommet, il va rester une grande confusion politique entre tous les groupes et mouvements politiques, suivant les propos du président français, avant ses assises. Merci de nous accueillir chez vous et de nous accorder votre attention.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La francophonie est consciente des souffrances que traverse la RDC dans l'une de ses parties et le fait que pour la première fois dans l'histoire de la francophonie, la plus haute instance, celle des chefs d'État et de gouvernement, se réunisse à Kinshasa est une chance de tirer la République démocratique du Congo vers le haut. Déclaration de Clément Duhem, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. La déclaration de Clément Duhem est une réponse à la question « Qu'est-ce que la RDC peut attendre du 14e sommet de la francophonie qui se tient cette fois-ci à Kinshasa ?» Clément Duhem est au micro de Thérèse Vassoubi.
La francophonie, vous le savez, a accompagné, dans la limite de ses moyens, mais elle ne l'a peut-être pas fait suffisamment savoir, le rétablissement de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous sommes bien sensibles et bien conscients, et le secrétaire général l'a exprimé à de nombreuses reprises, des souffrances que ce pays a traversées et traverse toujours malheureusement dans une partie du pays. Le fait que pour la première fois dans l'histoire de la francophonie, la plus haute instance, qui est celle des chefs d'État et de gouvernement, se réunissent à Kinshasa, pour nous c'est une chance, comme l'a dit le président Diouf, de tirer la RDC vers le haut, de permettre justement à la communauté internationale d'être encore plus sensible aux difficultés de ce pays qui s'est engagé résolument dans la voie justement d'une bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et par conséquent d'un développement. Vous le savez mieux que moi, ce deuxième pays francophone au monde qui va devenir dans 10 ans ou 20 ans le premier pays francophone au monde est un pays formidable. Il est non seulement le troisième poumon de la planète, il a des richesses humaines et des richesses naturelles extraordinaires. Il n'y a pas de raison que ce pays ne connaisse pas, comme d'autres pays dans le monde, en Asie ou en Amérique latine, un développement magnifique. Le sommet permettra justement non pas d'être une parenthèse, mais d'être probablement le moment d'un nouveau départ pour la RDC et la francophonie, comme d'autres, comme bien d'autres, parce que seuls nous ne pouvons rien, accompagnera les choix de ce pays justement dans la direction des valeurs que nous défendons ensemble.
Professeur Banya Kouluapé, je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'Université de Kinshasa, également coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'organisation de la francophonie à Kinshasa est une chance de tirer la République démocratique du Congo vers le haut, professeur. Quels sont, d'après vous, les enjeux de ce sommet?
Je suis très friand à reprendre les termes d'autrui, surtout lorsqu'ils ne conviennent pas. Donc, tirer vers le haut, je trouve c'est bien symbolique, mais c'est trop lourd. Parce que nous harmonisons, nous nous solidarisons pour que chacun puisse tirer profit de cette organisation. Donc, on ne tire personne vers le haut, chacun restant dans la coopération et la solidarité avec les autres. Et je crois que ce qui est important, c'est que c'est une grande occasion, une grande opportunité pour qu'il y ait échange, pour qu'il y ait, comme on dit, j'entends parfois la RFI, écouter, apprendre et comprendre. Écouter les autres, apprendre des autres et comprendre comment évolue le monde, surtout dans le contexte de la mondialisation.
La RDC, professeur, à votre avis, est-elle prête sur tous les plans ? Pas seulement sur le plan de l'aménagement de la ville, de la propriété, ainsi de suite, mais sur tous les aspects.
Bon, ça, il faut bien le dire. L'enjeu ne se mesure pas en fonction de l'infrastructure. L'enjeu se mesure par rapport aux attentes, à l'intelligence du jeu par rapport à ces enjeux. Donc, je crois que ce qui est important ici, c'est que c'est la première fois pour la RDC d'organiser une conférence de ce niveau, et que ça exige non seulement en termes humains, en termes matériels, mais en termes humains des compétences, de l'expertise et beaucoup de dispositions qui sont plus que l'argent. Mais ce qui est important, c'est que les Congo, la RDC, je crois que humainement parlant, on peut dialoguer avec les autres et a des compétences pour le faire.
Franklin Kamoye de Kananga au Kasaï occidental, pourquoi tous les pays d'Afrique francophone présentent presque les mêmes problèmes? Les guerres, le sous-développement, la dictature, les modifications anormales des constitutions, la politisation de tout. Pourquoi ce sommet est devenu une priorité du gouvernement? Professeur, en parlant des guerres, on voit la situation au Mali également. D'après cet auditeur, pourquoi les pays francophones semblent avoir les mêmes problèmes?
Je crois qu'au lieu de se culpabiliser, on doit plutôt poser la question autrement. Pourquoi les zones de guerre n'interviennent que là où il y a des intérêts stratégiques des multinationales et des États du monde, des grands et des grandes puissances du monde? Donc quand vous prenez le Mali, vous comprenez ce qui se passe là. Ce n'est même pas une rébellion en dehors du fait qu'on voudrait l'indépendance, mais c'est plutôt un trafic intense, une contrebande qui prend tous les Sahels. Donc, qu'il y ait une guerre là-bas, c'est une façon d'empêcher qu'il y ait une organisation de l'État, une maîtrise sur les ressources de l'État. Au Congo, c'est la même chose. Si vous prenez l'Est du Congo, c'est avec la découverte de l'exploitation de coltan et actuellement de lanthanide, dans les îles Oujoué, que brusquement, ça se rallume. Nous ne pouvons pas voir seulement ceux qui sont instrumentalisés, qui soient en termes d'État ou de groupe, mais nous voyons ceux qui sont responsables. En fait, on passe d'une guerre d'occupation à une guerre d'utilité économique. Donc, une guerre économique.
En revenant au thème de ce sommet, professeur Bagnacou, francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, en parlant d'enjeux environnementaux et économiques, notamment sur l'environnement, la RDC est le deuxième poumon en matière de forêt, de biodiversité, ainsi de suite. Mais on a l'impression que jusqu'au dernier sommet organisé en matière d'environnement, la RDC n'a fait que traîner les pas.
Il y a sûrement beaucoup d'éléments, comme on dit, de pesanteur. Et si on peut prendre parmi les facteurs de pesanteur, il y a la connaissance de notre total, de notre environnement qui est très diversifié. Ce n'est pas vraiment 50 ans qu'on peut maîtriser avec 2000, 3000 agronomes et 4000 peut-être ingénieurs des eaux et forêts que nous pouvons maîtriser tout notre environnement ainsi que les biologistes. Je crois que ce qui est très incertain, c'est que le ministère de l'Environnement est pleinement assis et qui participe, évidemment, au fur et à mesure qu'on a des compétences, qui participe de l'expertise, il participe et ça marque quand même une présence utile et nous prenons de plus en plus conscience du fait que le Congo, c'est quand même le poumon, un des poumons important de l'humanité en ce qui concerne, disons, la biodiversité.
Alors, le sommet de la francophonie, pour certains observateurs, est plus d'ailleurs politique que culturel. Professeur, c'est vrai qu'on va aborder la question, la polémique entre la RDC et la France autour des propos du président François Hollande dans la deuxième partie. Mais quant aux aspects politiques, qu'est-ce que la RDC peut en tirer?
La RDC peut en tirer l'avantage de se faire entendre. Parce que vous savez que ce pays, depuis 60, vit, comme on dit, dans un quiproquo terrible. Qu'il soit du côté d'un mouvement nationaliste, il y est diabolisé, donc il devient communiste. qui soit un peu libéral, il est diabolisé. On dit que, bah, je vais prendre l'exemple de Thiombé, de toute la période de Thiombé. Il est libéralisé, c'est tout le monde qui le diabolise. Quand il devient bon un peu au néolibéralisme de Mobutu, il est encore diabolisé sous la dictature. Kabila, c'est la même chose. Il y a un tel quiproquo que personne n'a jamais cherché à savoir, sur le plan politique, quelles sont les difficultés qu'a le Congo. Un espace comme le nôtre, une diversité d'ethnies, et puis un niveau relativement bas, nous avons hérité d'un déficit de formation et d'éducation par rapport aux nombreuses colonies, ex-colonies françaises et anglaises.
Achille Nkoy de Goma au Nord Kivu, je pense que nous, populations, nous sommes mal informés et avons une mauvaise idée par rapport à la francophonie. Nous pensons que ce sommet vient nous remettre dans nos droits, vient changer la vie du Congolais. Ce sommet devrait changer la façon de voir les choses du Congolais, donner un espoir pour le Congo et pas une occasion de mésentente ou de révolte professionnelle. Professeur Bagnacou.
Je crois que c'est vrai, il y a au départ, ça il ne faut pas se les cacher, la francophonie de par un des premiers auteurs, Onésius Selectus, il y a dans la fondation de la francophonie l'expression de la politique française à trouver des espaces, puisque l'espace colonial était directement en fait un peu plus occupé par les autres puissances, la puissance anglaise, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. La France devrait trouver une intelligence pour occuper cet espace. Il a trouvé que la langue était un des moyens pour pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier que la francophonie, au départ, en 1880, le fondement, c'est l'expansion de la France pour la domination de la France. Bon, ça a évolué. Quand on est devenu indépendant, les premiers présidents africains ont voulu un peu réactualiser la chose dans le sens plus positif. Et ça a marché jusqu'à aujourd'hui.
Honorable Eve Bazaïba, vous êtes députée nationale de l'opposition et présidente de la commission socioculturelle à l'Assemblée nationale. Pour vous, quels sont les enjeux que représente ce sommet pour la RDC?
Oui, monsieur le journaliste, moi je vous ai abordé dans l'intervention d'un internaute auditeur qui a parlé de la grande confusion qui risque de s'installer après la francophonie. La grande confusion, effectivement, parce que la francophonie en soi, par essence, revêt un enjeu culturel, parce qu'il s'agit de la langue. Les pays qui partagent la même langue, c'est un véhicule de compréhension, c'est un véhicule d'échange, à l'intérieur duquel va découler certainement d'autres contacts, d'autres enjeux pour amener au développement. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, ce n'est pas l'enjeu culturel qui est mis au premier plan, c'est plutôt l'enjeu politique. Et même cet enjeu politique, comment est-ce que cet enjeu est exploité? Est-ce pour l'intérêt de la République démocratique du Congo dans son entièreté, ou tout simplement pour une catégorie de personnes ou pour une catégorie d'une instance? Je prends par exemple le thème, combien louable, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Est-ce que les Congolais ont eu le temps dans cette préparation de savoir qu'ils représentent, quel est le contenu, la quintessence de cet enjeu? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la 80% de la population vit dans le milieu rural. Est-ce que cette population comprend ce que ça signifie biodiversité, gaz à effet de serre, pollution, réchauffement climatique? Ça signifie quoi pour la population? Est-ce que ce n'était pas l'occasion d'en parler? Est-ce que cette population comprend l'enjeu économique au sens que veut la francophonie dans le marché d'échange? Qu'est-ce que le Congo amène à la place du marché en termes de services ou en termes de production? Tout ça, c'est incompris. Alors que ça allait être l'occasion, parce que quand on parle du français, c'est bien de parler le français, mais c'est mieux de savoir lire et écrire en français. Combien de gens dans la population ici connaissent le français? Si on voit dans l'ensemble les pays francophones, il y a des statistiques telles que dans les pays arabes francophones, par exemple, 60 millions d'habitants sont des analphabètes. En République démocratique du Congo, la majorité de la population est analphabète. Comme j'ai dit, c'est 80% de la majorité vit à l'intérieur du pays. Moi, de là où je viens, combien de gens comprennent d'abord le mot français. Aujourd'hui, j'ai suivi à la radio Capi les enfants qui ont parlé de langue française, mais il faut écouter. J'ai fait couler les larmes parce que les enfants réclament à connaître le français. Les enfants se battent pour articuler les mots français. Ça pose problème. Je pense que ça allait être important. Alors, je termine cette étape-là pour dire, si vraiment les Congos, même du point de vue politique, voulaient attirer, tirer les draps de la francophonie, donc vers la politique, moi je pense que ça allait être le moment, la politique diplomatique en y incluant la sécurité. Qu'est-ce que le Congo va faire lorsque le Congo attire aujourd'hui les projecteurs du monde sur la RDC par rapport à des enjeux importants que nous avons actuellement sur la diplomatie, sur la sécurité, la paix et la politique dans son ensemble?
En revenant sur les propos de Clément Duhem, le professeur Bagnacou réagissait en disant « Personne ne tire personne vers le haut, nous nous solidarisons donc dans un contexte gagnant-gagnant, un rendez-vous du donner et du recevoir. » Madame Bazaïba, la RDC est-elle prête à donner quelque chose?
Ah, mais je suis désolé si le professeur dit personne ne peut tirer personne vers le haut. Là, nous risquons d'être les paniers à Scrabble où nous nous tirons tous nivellement vers le bas. Il faut plutôt qu'il y ait de ceux qui tirent les autres vers le haut. Ça va faire une bonne chaîne, comme ça tout le monde ne sera pas dans le gouffre. Moi, je le comprends dans mon sens là. Moi, je pensais plutôt que, comme je venais de le dire, les Congos allaient profiter justement de cette possibilité-là d'attirer le monde vers le Congo pour parler des questions réelles et profondes. Aujourd'hui, nous avons deux pays francophones qui se battent. Je dirais mieux, un autre pays francophone qui agresse son voisin. Je parle du cas du Rwanda. Ça allait être l'occasion. Mais on va pas faire la cirque ici, la festoyer à Kinshasa, pour dire qu'au Nord Kivu, une partie du Congo, ils n'ont pas besoin aussi de parler la langue française. Ils n'ont pas besoin. Quelle est la place du Nord Kivu actuellement, de la province orientale, du Nord Katanga, par rapport au sommet de la francophonie qui se tient à Kinshasa? Ne font-ils, cette population ne fait plus partie de la République démocratique du Congo? Quel est le rôle du Rwanda pour la paix, la collaboration en termes de la francophonie? Même si je savais qu'à un moment donné, le Rwanda s'est retiré de la francophonie, parce que le Rwanda ne parlait plus que l'anglais, maintenant je sais que le Rwanda est rentré dans la francophonie. Moi, je voudrais qu'à cette occasion, que les mots soient bien articulés, qu'on appelle les chats par son nom, de manière claire. Parce que aujourd'hui, si le président Kagame voudrait venir au nom de la francophonie, personne ne va lui interdire. On va lui étaler des tapis rouges. Mais quelle est la place des Congolais pour comprendre ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo actuellement?
Alors, en comparant à un autre pays de la francophonie qui traverse des moments difficiles, j'ai parlé tantôt du Mali, honorable Eve Bazaïba, mais à suivre, ne serait-ce que sur les médias internationaux, la manière dont les informations du Mali sont présentées, traitées avec beaucoup d'attention, beaucoup d'effervescence, par rapport à la RDC, où il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de morts, des tueries. La RDC, finalement, comme a dit le professeur Bagnacou, aura l'occasion de se faire entendre, mais en a-t-elle les moyens?
La RDC devait en avoir les moyens. La grande difficulté de la RDC, moi je ne peux pas mâcher les mots, la situation devient complexe par rapport à l'implication justement des personnes qui sont appelées à dénoncer. Leur implication rend la situation totalement complexe. Moi, je ne veux prendre que les cas du garant de la nation. Le numéro un, je peux parler du citoyen numéro un, le chef de l'État. Il a eu une tribune au-delà de la francophonie. Pour des raisons diplomatiques, les raisons qui lui sont propres, il n'a pas voulu citer nommément l'agression dont nous sommes victimes par le Rwanda. Et c'est défendu ici par des compatriotes pour dire que le président voulait préserver le processus diplomatique parce que nous sommes en relation avec les Rwandais, etc. Ça, c'est la RDC. Alors, si nous ne dénonçons pas, qui voulez-vous qui vienne dénoncer à nos séances? Le monde ne fait suivre que les rythmes qui est le nôtre par rapport à la manière dont nous sommes en train de gérer nos relations avec les neuf pays voisins, la manière dont nous pensons gouverner la République démocratique du Congo. Le monde ne peut pas inventer autre chose que ce que nous voulons.
Professeur Bouyendoua Elouga ici, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, je suis bien en ligne. Bonsoir, cher Alain.
Voilà, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'IEC Ouvira au Sud Kivu, également directeur du Centre de Recherche et d'Études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, vous avez suivi le professeur Bagnacou, votre collègue, ainsi que l'honorable Bazaïba. Quels sont pour vous les enjeux que représente ce sommet pour la RDC?
Je veux d'abord saluer le professeur Bagnacou et l'honorable Bazaïba. Je suis très bien content de l'introduction qu'ils ont pu faire. Mais je vais peut-être commencer par diverger À la limite, que m'éloigner de l'un et de l'autre, mais tout en ayant l'idée que servant le Congo, nous allons converger. Moi, je pense que, en fait, si j'expose dans un premier temps le fait, et que je puisse dans un deuxième temps évaluer les conséquences pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, je dirais d'abord que les faits sont là, ils sont têtus. Je dirais d'abord, dans un premier temps, que la francophonie est une communauté autour d'une langue coloniale. Et je ne suis pas du tout content que nous mettions à célébrer la colonisation d'une manière ou d'une autre. Deuxième élément, je dirais que la francophonie est une construction mentale, une construction intellectuelle, presque sentimentale. Et en cela, je dirais que c'est un rêve, une sorte de projection, un vœu, une sorte d'aspiration, une projection, un souhait, une volonté. J'allais dire même un fantasme, pratiquement une sorte de chimère. Donc je dirais que la francophonie, moi, ça m'intéresse pas. Ça n'intéressait pas quelqu'un qui a vécu la colonisation d'aller ressasser et comment dirais-je, rappeler qu'il sait qu'ils sont des mauvais faits. Et troisième élément, j'allais dire que la francophonie est une suite, une conséquence, une poursuite, une perpétuation de quelques faits que j'ai envie de dénoncer. Le premier fait que j'aimerais bien dénoncer, c'est que c'est tout simplement la francophonie, c'est une colonisation géographique. En fait, nous sommes en train de perpétuer la colonisation qui a été faite par la France. Et je le dis bien plus simplement que j'ai vécu pendant très longtemps en France et en Bretagne, je sais tout ce que cela veut dire. Là, je dirais aussi que la francophonie, c'est la perpétuation de la domination culturelle. C'est la perpétuation de l'aliénation mentale. C'est la continuation de la caporalisation idéologique, une sorte de soumission économique, d'embrigadement juridique, de suivisme politique et vraiment d'alignement diplomatique. Et en cela, moi, je suis totalement contre l'idée qu'on puisse, 50 ans après la question des indépendances, que j'aurais appelé Uhuru ou Abendera, c'est-à-dire les indépendances du drapeau, les flags indépendantes, je ne suis pas du tout pour qu'on puisse célébrer. Et si j'avais eu le temps, si on pouvait permettre à des gens à la limite de déclarer autre chose, je me serais bien élevé contre ça. En quatrième élément, j'allais dire que la francophonie n'est pas, pour le Congo, elle n'est pas plus importante qu'une possible solifonie, qu'une possible tchiloubaphonie, qu'une possible lingalaphonie, ou bien une possible tchikombophonie, parce qu'après tout, nous sommes au cœur de l'Afrique centrale, et que nous pouvons impulser des dynamiques à partir des langues de civilisation bantou, et que nous pourrions faire autre chose qu'aller être à la traîne des mœurs, des habitudes et des pratiques coloniales. Un cinquième élément, moi je n'irai pas trop loin, parce que je pense que je vous parle de votre gentillesse du temps que nous donnerons mes co-débatteurs. Je veux dire que le Congo est, au niveau géographique et numérique, le plus important pays, soit uniforme du monde. Je ne comprends pas qu'ayant à la tête un président qui a vécu toute sa vie en Tanzanie, on soit obligé d'aller attendre que soit François Hollande qui nous rappelle la démocratie, au lieu d'aller suivre une erreur qui nous permet comme un Ujama, comme la démocratie minimale. Et je pense que le président, là, cette histoire-là, c'est un peu abracadabrantesque.
Professeur.
Je viens m'arrêter là.
Professeur.
Je veux dire que les Français, professeur, les Chahou, les Lingala, les Kikongo, les Tiluba sont des langues, et chaque langue a une valeur égale à toute autre langue.
Professeur.
Je ne vois pas comment des intellectuels peuvent s'astreindre à l'idée que vraiment de célébrer une langue, après tout quand même, le grec et le diamant,
professeur,
le diamant,
professeur Bouindwa.
Parce que dans ce pays, il n'y a pas 10% de la population qui parle français.
Professeur Bouindwa.
On arrête de bâtiner les idées avec des faux idées. Moi, vraiment, je.
Professeur.
Je pense qu'on a raison d'être fondamentaux pour dire que la francophonie, c'est un enjeu, c'est pour faire vivre le rôle économique, culturel et scientifique de la France.
Professeur.
Et que nous, ça ne sert à rien, pauvres bantous, nous allons continuer à nier notre colonisateur.
Professeur.
Et je vous le dis d'autant plus aisément et simplement que j'ai vu en Bretagne, où je parle la langue bretonne, et
professeur,
je suis content de voir un peuple qui se lève contre.
Professeur Bouindwa. Professeur Bouendoua, est-ce que vous me suivez? Professeur?
Oui.
Voilà, vous avez utilisé des termes assez forts. On a compris que vous, la francophonie ne vous intéresse pas. Vous souhaiteriez plutôt, vous parliez plutôt d'une possible swahiliphonie, chilubaphonie, kikongophonie, lingalaphonie. Mais vous avez utilisé, comme je le disais, des termes assez forts contre la francophonie. Vous parlez par exemple d'une perpétuation de l'aliénation mentale, une caporalisation. Professeur, au moment où le monde semble s'ouvrir et ne devient qu'un vaste village, pourquoi vous soutenez des thèses autarciques où l'Afrique devrait, à vous comprendre, se refermer plutôt sur elle-même? Brièvement, je vous en prie.
Excusez-moi, là, mais le monde est un village, mais dans ce village, il y a des quartiers. Je préfère appartenir d'abord à mon quartier qu'appartenir à ce village. Et puis, de toutes les façons, je me tenais très souvent ces choses-là, mais là, on parle de la délocalisation. C'est-à-dire penser global pour agir local. Et dans ce jeu-là, il faut d'abord être bien sur soi, il faut que tu te demain, comme disait Yerere, compter sur soi d'abord avant de compter sur les autres. Et si nous n'avons pas de langue, parce que toutes les langues du Congo sont en train de mourir et ne se parleront plus dans 50 ans. Et les Bashi, les Baéda, les Bakongo, les Baluba, et bien que nous célébrons la francophonie dans 50 ans, se diront que leur langue appartenait comme le grec et le latin et l'arménien ancien à une civilisation qui existait.
Merci.
Que les langues, c'est le rapport de l'UNESCO.
Merci, professeur Bouendoua. La situation est tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition en République démocratique du Congo. La déclaration est de François Hollande. Le président français s'est ainsi exprimé ce mardi à Paris lors d'une conférence de presse commune avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'Élysée. L'autre préoccupation est l'agression dont ce pays est l'objet, venant de l'extérieur sur ses frontières et notamment au Kivu, a-t-il poursuivi en se prononçant pour la protection des frontières de la RDC. On écoute le président François Hollande au micro de nos confrères de RFI.
Ce sommet aura lieu à Kinshasa, en RDC, avec deux préoccupations que j'ai personnellement à l'esprit. La première, c'est la situation tout à fait inacceptable sur le plan des droits, de la démocratie et de la reconnaissance de l'opposition. Mais également une autre préoccupation qui est l'agression dont ce pays est l'objet venant de l'extérieur sur ses frontières, et notamment au Kivu. C'est pourquoi je suis en soutien de l'opération qu'a engagée les Nations Unies pour permettre la protection des frontières de la RDC, qu'il conviendra de renforcer s'il en était besoin.
En réaction à la déclaration du président français, le porte-parole du gouvernement congolais affirme que le jugement de François Hollande ne correspond à aucune réalité. C'est au peuple congolais d'accepter ou ne pas accepter une situation au Congo, affirme Lambert Mende, interrogé par l'AFP. Nous sommes le pays le plus avancé dans les droits de l'opposition, soutient le ministre Mende, qui suggère au président français de compléter son information pour rendre son voyage à Kinshasa, je cite, très utile. Lambert Mende, au micro une fois de plus de nos confrères de RFI.
Il n'est pas interdit à un ami de critiquer, même si la critique est fondée sur des données qui ne sont pas justes et correctes. Notre impression est que cette appréciation trop négative en matière du respect des droits de l'homme, de la démocratie et des droits de l'opposition du président français est un peu excessive et très hâtive. Il faut se rendre compte que nous sommes dans un pays qui est considéré comme le plus ouvert en termes de droits de l'homme. Nous vivons bien sûr dans une sorte de palais de verre où tout ce qui se fait est immédiatement connu parce qu'il y a une grande transparence et on semble nous reprocher cela. Nous sommes dans un pays où le processus même de contentieux électoral est très vivace. C'est la preuve de la bonne santé de la démocratie. On ne doit pas nous en faire le reproche. Pourquoi ne pas reconnaître à François Hollande la liberté d'une opinion? Nous disons simplement qu'il est mal informé.
Voilà, professeur Banyakouloapé, vous connaissez comment l'arrivée au nom de François Hollande à ce sommet a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais maintenant à suivre cette polémique, peut-on parler d'un mauvais présage pour ce sommet?
Il n'y a pas de présage, c'est une constance. Depuis la campagne électorale, le président François Hollande a tenu un peu à recadrer sa conception de la nouvelle politique
France-Afrique.
France-Afrique,
Est-ce que cela peut lui réussir tout simplement avec des mots? Ou bien doit-il imaginer des stratégies réelles pour qu'il y ait ces changements? C'est donc, je pense que c'est tellement général, juger une situation inacceptable sur le plan du droit, mais il faut préciser, il y a quand même des avancées, puisqu'il n'y a pas, je pense qu'on prend les droits humains au sens tout simplement restrictif, mais il y a les droits à l'éducation, les droits à la santé. Donc, nous ne pouvons pas penser que tous les droits, nous sommes à l'avant-garde, mais au moins la volonté y est, je vais dire la volonté collective, puisqu'il ne faut pas dire qu'il y a un seul élève, madame l'a dit tantôt, que elle a senti des pleurs lorsque il y a des enfants qui veulent apprendre. C'est déjà quelque chose de positif. Donc, il ne s'agit pas ici d'un fait de presse où on doit dire vous devez avoir des écoles, vous devez pas avoir vous devez avoir des... Mais il y a une volonté générale, les gens veulent avoir les soins, ils veulent avoir l'éducation, ils veulent que ceux qui sont le plus vulnérables soient soutenus par des réseaux sociaux officiels ou informels. Donc là-dessus, je pense que c'est droit. Moi, je ne ferai pas la guerre pour ça, puisque on a presque restreinti. Je sais que c'est provocateur et c'est récupérateur, puisque le président François Hollande, avait promis un certain nombre de choses dans sa campagne qui sont en train de rater. Je pense qu'il doit maintenant récupérer, au moins pour cette question qui ne relève que de la logistique ou de la phrase. Et le deuxième point, démocratie. Je dirais que là aussi, nous nous donnons des leçons. Nous avons suivi tous les débats démocratiques de François Hollande ou d'avant, de Sarkozy. Mais si sur le plan politique effectif, c'est-à-dire le plan des instances politiques, on ne peut pas. Mais au moins les analystes, les Congolais ont aussi des analystes politiques pour dire voilà, la démocratie boite un peu en France dans tel domaine. Et surtout si on prend ces domaines particuliers. Je me suis beaucoup de pseudomes particuliers de la démocratie en rapport avec les élections. Moi, je suis très gêné puisque moi, j'ai fait des études sur les clivages et ancrage des électoraux en RDC. En 2006, le président Kabila a eu 48% au premier tour. Mais en 2011, il y a eu 48%. En suivant les clivages, on trouve qu'il n'a rien. Et puis, je dirais que la CENI n'a pas été d'un grand apport pour lui, puisqu'il en aurait eu plus.
Alors, professeur, en revenant aux enjeux par rapport à cette polémique, finalement, le professeur Bouyendoua n'a-t-il pas raison en parlant de caporalisation, perpétuation de l'aliénation mentale? J'ai signalé tout à l'heure que c'était des termes assez forts, où l'Afrique devrait plutôt se focaliser sur en faisant la promotion de la culture locale, ou par exemple les pays au niveau de la sous-région devraient se regarder en face pour se dire la vérité au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire. Très brièvement, je comprends.
Oui, bon, je crois qu'avant d'arriver là-bas, j'ai rebondi un peu sur la reconnaissance de l'opposition qui a été fait allusion. J'ai dit qu'une opposition qui est au Parlement, une opposition qui s'active, qui est sur le plan, on ne peut pas parler d'une non-reconnaissance puisqu'elle est réelle. Peut-être, il y a comme dans toutes les oppositions des faits qu'on voit. Bon, sur la promotion des cultures locales où les gens peuvent se regarder en soi pour se dire des vérités, je pense qu'on se dit suffisamment des vérités, sauf qu'en politique, n'est-ce pas, toutes les vérités, ça ne sort pas dans la rue. Il y a des choses qui se disent froidement et sèchement, mais qu'il faut chercher les moyens de le rendre un peu, sur le plan international, un peu acceptable.
Honorable Eve Bazaïba, comment vous avez perçu cette polémique, entre guillemets?
Oui, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça polémique. En ce qui me concerne, d'abord, j'ai trouvé que c'était mal indiqué que ça soit le porte-parole du gouvernement qui pouvait répondre au président François Hollande, parallélisme fort. Moi, je pense qu'il aurait dû laisser ça au chef de l'État pour que il puisse répondre ça autrement. Il y a plusieurs moyens de répondre à son homologue. Et je voudrais aussi dire que...
Était-ce le moment de faire une pareille déclaration de la part du président Hollande?
Non, de la part de François Hollande, je voudrais dire ceci. Entre États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Le président François Hollande, peut-être pour sa propre consommation extérieure, est en train de justifier sa venue au Congo. parce qu'il est aussi l'objet des critiques entre
autres. Et des pressions.
Oui, et des pressions. Maintenant, il est tenté de justifier, il voudrait couvrir sa venue au Congo. Ça, c'est mon analyse. Par contre, ça c'est du point de vue de la forme. Par contre, si on veut aller dans le détail par rapport à ce qu'il est, il vient de le dire, ce que nous faisons au Congo, le porte-parole du gouvernement l'a dit, le monde devient de plus en plus un village. Tout le monde sait que M. Tshisekedi, qui est un partisan de la non-violence, se trouve à être en résidence surveillée, tout simplement par rapport à son verbe. Tout le monde sait qu'on trouve des opposants en prison. Il y a Mokia qui est là-bas en prison. Il y a Chaloupa qui est en prison. Il y a même un évangéliste ou un bishop Coutinho qui est en prison pour avoir créé une organisation Sauvons le Congo. C'est clair, ça se connaît. Tout le monde sait que moi, par exemple, je ne peux pas être arrêté. Parce que j'ai mon immunité. Le débat démocratique au Parlement n'est pas à confondre avec la démocratie sur terrain. La démocratie, on ne doit pas la vivre seulement de manière cloisonnée au Parlement. On doit vivre la démocratie en dehors du Parlement, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous qui descendons sur terrain, vous arrivez au village. Moi, député reconnu ici à Kinshasa, République démocratique du Congo, j'arrive en province. Mais les agents des services de renseignement et de sécurité, je dois me soumettre à leur dictat tout simplement parce que je suis de l'opposition. Je dois être à la défensive à tout moment. Je dois m'expliquer, me réexpliquer à tout moment. Et je dois savoir gérer ces genres d'instances.
Et vous donnez raison au président Hollande.
Tout à fait, je donne raison au président Hollande. Quand quelqu'un vous critique, c'est peut-être pour vous aider à vous améliorer.
Oui, si Kaba de Benyonor, qui vous, la RDC doit cesser de se comporter comme une femme qui se prépare au mariage et qui doit tout faire pour impressionner son conjoint et les invités, l'élite congolaise doit exposer sans se voiler la face les problèmes qui rongent le pays depuis des décennies et profiter ainsi de l'expérience d'autres pays francophones. L'hypocrisie ne nous avantagera pas, Madame Bazaïba.
Je ne sais pas si on peut parler de l'hypocrisie pour le moment. Moi, je pense que il faut peut-être poser la question au gouvernement qui parfois joue à l'hypocrisie pour faire bonne presse pour la consommation extérieure. Mais en ce qui me concerne, je pense que l'hypocrisie ne peut pas avancer. On n'a pas le temps de l'hypocrisie parce que tout est clair. Ce que nous faisons, je pense que c'est difficile de se cacher.
Alors, en annonçant déjà ce genre de couleurs, donc on pourrait s'attendre à pire avec l'arrivée de François Hollande ici.
Je vous dis, je ne pense pas qu'il y aura de pire. Le président François Hollande sait pourquoi il est en train de venir ici au nom de la France. C'est juste la continuité. Le président Sarkozy était venu, il a entamé une démarche, c'est la continuité de l'État, il va venir. Moi, dans mon analyse, ça n'engage que ma personne, je suis politique, je sais que c'est pour la consommation extérieure, parce que près du voyage, tout le monde sait maintenant qu'il va se déplacer bientôt, et il s'organise à passer par le Sénégal d'abord, là où on a inventé la démocratie, et j'en profite pour féliciter le Sénégal, parce que ce n'est pas facile, et après, il va passer aussi par la République sœur du Congo et finalement arriver en République démocratique du Congo. C'est une manière, c'est une diplomatie, c'est une politique en sa manière. Exactement, c'est pour la consommation extérieure. Sinon, il ne serait pas venu. Et après moi, soyez-en sûrs, je reviendrai ici à la radio Okapi. Je vous dirai le genre de contrat que la France aurait signé avec le Congo par rapport à sa présence ici. Parce qu'il y a des négociations, on ne peut pas envoyer des gens. Ça nécessite des tête-à-tête, des plénipotentiels. Il y a des choses où le président François Hollande ne peut pas les dire avec le président Kabila en France. Mais ici, il se retirerait quelque part. Il signerait des accords en toute quiétude.
Professeur Bouendoua, je signale en même temps qu'il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Professeur, cette polémique, entre guillemets, comme je le disais, réconforte-t-elle votre thèse d'après laquelle la francophonie, ça ne vous intéresse pas? Professeur Bouendoua.
C'est lui que je connais un peu plus. Je pense que le président Hollande, le Congo, il sait très bien que notre pays est un géant géographique, c'est pour cela que ça intéresse la francophonie. un nain économique néant politique et diplomatique. Et c'est sur ce fond-là que moi je suis un peu mécontent de ce que nous pouvons être congolais, vraiment d'être un géant, d'être aussi un nain et un néant en même temps. Parce que bon bah, si on entend ce qu'a dit le président Hollande, bah, excusez-moi, il s'est été à la tête de cette maison que je l'invite à ce point. Et bon, j'espère que j'ai toujours dit assez bien le subjonctif imparfait. Mais bon, nous sommes là dans un pays qui est à genoux, un véritable chien qui aboie qui ne mord pas. On peut nous avancer toutes les avenues, on accepte, parce que tout simplement nous n'avons pas de force. Et nous n'avons pas de force ni diplomatique, ni économique, ni... Nous sommes en train vraiment d'abandonner tout. Parce que tout simplement, M. Mendes, c'est vrai, répondant à un président, il aurait pu quand même un peu tourner par d'autres. Il faut faire sa langue, parce que tout simplement, nous savons très bien que nous sommes au plus bas. Il faudrait que nous nous reconstituions, et pour que nous puissions quand même avoir les forces de parler au monde, de nous parler à partir de nos langues, de nos entités et de nos identités. Tout cela, on fout par terre, on se jette dans un wagon, francophonie, bon, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où l'on vient. Pour moi, je pense que vraiment, nous sommes un peu pitoyables, excusez-moi, bon, ben, allons-y, mais ce n'est pas comme ça qu'on va, quand on doit négocier avec les autres, avec, comment dirais-je, quand on agit.
Et donc, pour vous, professeur Bouendoua, la RDC ne doit rien attendre de ce sommet.
La RDC n'a strictement rien à attendre de ce sommet parce que tous les sommets, toutes les conférences que prépare le Congo sont mal conçues, mal conduites et souvent mal conclues parce que nous étions en état de faiblesse. Là, nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Nous allons accueillir en disant nous sommes le plus grand pays francophone du monde. Nous avons beaucoup plus de francophones au Congo que de francophones. Nous devrions dire à toute l'Afrique centrale et orientale, eh bien, voilà le grand Congo. Nous avons eu cette année qui a atterri chez nous, passant par Kisangani, dans les villes, venant de Zanzibar, et tout, toute une culture importante. D'abord, le Swahili est beaucoup plus parlé au monde que le français. Et d'ailleurs, nous devrions en être fiers, mais personne ne le dit. Bon, le président qui a passé toute sa vie en Tanzanie, il sait très bien la fin du Swahili, il irait ses discours en Swahili. Notre président, presque honte, j'aurais bien voulu d'ailleurs, quand on a perdu les autres, le plus grand pays Swahili du monde, il a fait le Swahili. Mais nous n'avons pas vraiment être un peu en train de ramper, négociant des choses. Bon, excusez-moi, je ne parle pas de cela du président de la République, mais je pense que nous tous, nous avons la faute d'avoir mal préparé ce sommet. Et bien, nous allons tout simplement merci. Mal autour comme d'habitude.
Merci, professeur Bagnacou. Conclusion.
La conclusion, c'est que la francophonie, c'est un espace virtuel, un espace en constitution, comme l'a dit tantôt le professeur Bouendoua. Nous pensons que nous avons un potentiel suffisant à mettre en valeur, que ça soit politique, économique et même géostratégique. Et nous pensons que nous pouvons les réussir, puisqu'il y a une volonté pour les faire. Voilà la conclusion.
Madame Bazaïba, partagez-vous le pessimisme du professeur Bouendoua, d'après lequel la RDC n'a rien à attendre de ce sommet?
Moi, je respecte son point de vue. Je voudrais tout simplement dire en ce qui me concerne par rapport au thème enjeux environnementaux, la gestion de l'environnement du bassin du Congo est en train d'échapper au Congo. Ici, en République démocratique du Congo, nous renfermons plus de 80% des bassins du Congo, mais nous n'avons aucune institution ici, basée ici, qui peut nous permettre cette gestion. Et le monde, par rapport à la gouvernance, est en train d'être cloisonné par rapport au G8, par rapport à etc. Si au moins, le Congo peut obtenir ne fût-ce qu'un statut d'observateur, là où toutes ces décisions-là se prennent, parce que c'est nous qui constituons aujourd'hui le deuxième poumon du monde. Même par rapport aux enjeux de l'eau, c'est le Congo où le monde viendra puiser de l'eau chez nous. Et je terminerai par dire, parler français c'est bien, mais savoir lire et écrire en français c'est mieux. Il serait mieux que tous les pays francophones luttent d'abord contre l'analphabétisme.
Merci Madame Bazaïba. Professeur Bouendoua, un mot en guise de conclusion.
Je vais dire tout simplement que l'environnement relève de politique publique, mais je dirais en concluant que toutes les langues, chaque langue, n'importe quelle langue, c'est qui vaut, mais toutes les langues, ça valent. Merci. J'aimerais bien que nos langues, nos identités et nos tribales puissent survivre et seconder, façonner et fortifier nos identités. Merci beaucoup.
Merci Monsieur et Madame d'avoir participé.
participé à cette émission. Le dialogue entre Congolais s'est terminé pour ce soir. Merci à vous de votre attention. Merci à Guy Matt et Samuel Kachak sous la supervision de Pélé Kipela Mondo qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. Mimi Kindou et Bob Landou étaient à la technique, coordination et présentation. Alain Rung Mouchige, au revoir.